Bonjour, bienvenue sur Radio Alma. Nous sommes la classe de 5e Sandrine et voici notre gazette.
Il y a quelques jours, des vols ont été annulés dans plusieurs aéroports européens, dont Zaventem suite à une cyberattaque du programme de l'entreprise Konins Aerospace qui gère l'enregistrement des bagages et des passagers. Les problèmes ont duré plusieurs jours.
Le 19 septembre, des pirates informatiques ont réussi à rentrer de force dans le système informatique de l'entreprise américaine Konins Aerospace. Leur programme Muse, utilisé par plusieurs aéroports européens pour l'enregistrement des bagages et des passagers, a cessé de fonctionner. Les aéroports concernés sont ceux de Bruxelles, Berlin, Londres et Dublin. Les problèmes ont duré plusieurs jours. Désorganisant complètement le fonctionnement des aéroports, des vols ont été annulés et de longues files d'attente se sont formées. Rien qu'à Bruxelles, plus de 160 décollages ou atterrissages ont été supprimés les trois premiers jours. Du personnel supplémentaire a été sollicité pour travailler à l'ancienne en format papier. Les motivations des pirates ne sont pas connues, mais on peut imaginer plusieurs hypothèses. Ils ont pu vouloir perturber les infrastructures importantes des pays concernés, tester leur sécurité ou essayer de voler des données informatiques.
Récemment, on parle beaucoup de la bactérie Steck qui provoque de graves problèmes de santé. Les bactéries sont apparues il y a des milliards d'années. Ce sont des organismes unicellulaires, si petits qu'on ne peut les voir à l'œil nu. Les bactéries sont partout. Certaines sont nos amies, mais certaines sont très dangereuses. Mais au fait, c'est quoi une bactérie ?
Une bactérie n'a qu'une seule cellule. Il en existe de plusieurs formes, ronde, ovale ou plate. Nous pouvons l'observer au microscope, mais les bactéries ne se trouvent pas que dans les laboratoires. Elles sont dans l'air, sur le sol, dans nos assiettes et même sur la peau. Pour se reproduire, une bactérie grossit encore et encore jusqu'à exploser pour ensuite se diviser en deux. Cette opération se reproduit à l'infini. C'est pourquoi il y a des milliards et des milliards de cellules. Les bactéries provoquent plusieurs réactions rigolotes sur la nature. Elles transforment le lait en yaourt, elles créent le gaz qui forme les trous dans le fromage et c'est leur faute si certains fromages sentent mauvais. Les pieds aussi d'ailleurs. Chez l'humain, 95% des bactéries sont dans notre système digestif. Elles sont presque toutes essentielles au bon fonctionnement du corps. Certaines autres qui se développent dans les aliments mal cuits ou mal conservés peuvent rendre très malades, voire sont mortelles. Les infections bactériennes sont la deuxième cause de décès dans le monde. Pourtant, il ne faut jamais oublier que, avant tout, la bactérie est notre amie.
La Récup est un nouveau site de vente en ligne de produits de seconde main, récemment lancé en Belgique, mettant l'accent sur le local. On vous explique.
Grâce à la seconde main, l'économie circulaire se développe de plus en plus, permettant la vente de particulier à particulier, en parallèle avec les sites en ligne tels que Marketplace, Vinted, Deuxième Main ou encore eBay. Le côté positif de la seconde main est que les produits sont moins chers qu'en magasin, en plus de limiter l'empreinte carbone, car ils n'ont pas dû être fabriqués une deuxième fois. Il y a tout de même un côté négatif car ces articles doivent être livrés, ce qui participe à l'empreinte carbone, mais en moindre mesure. La Récup est une plateforme située en Belgique dont les vendeurs sont exclusivement locaux, ce qui la différencie des autres plateformes concurrentes. Elle innove en proposant sur son site d'autres acteurs du secteur tels que les Petits Riens, la ressourcerie namuroise ou encore ProVélo. L'union fait la force. Généralement pour un commerce, le but est de gagner de l'argent. Alors qu'ici, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, l'objectif est de mettre les projets et l'humain en priorité et soutenir les actions sociales locales.
La semaine dernière était la semaine de la mobilité. Nous avons réalisé un micro-trottoir pour voir ce qu'en pensaient les gens.
Connaissez-vous la semaine de la mobilité et savez-vous de quand à quand elle se déroule ?
Je la connais, mais ces dates, non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quand à quand elle se déroule.
Je ne sais pas, je ne connais pas.
Je sais qu'hier, c'était la journée sans voiture, mais je ne sais pas s'il y a des autres actions qui sont faites pendant la semaine de la mobilité. Je serais curieuse de l'apprendre.
Je connais surtout la journée sans voiture et je sais que c'est plus ou moins en même temps la semaine de la mobilité.
La date exacte, je ne connais pas.
Alors, je ne savais pas qu'il y avait la semaine de la mobilité. Hier, j'ai eu la journée sans voiture avec ma famille et c'était génial et j'apprécie beaucoup cette journée-là. Mais je ne vais pas te mentir que je ne savais pas que c'était la semaine de la mobilité. Et si je l'avais su, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pris mon vélo pour venir au marché. Donc, je pense qu'il faut peut-être mieux communiquer.
Ben, la semaine de la mobilité s'est terminée hier avec la journée sans voiture à Bruxelles. Et elle dure une semaine.
En dehors de cette semaine, quel est votre mode de déplacement principal pour vous rendre à votre travail ou à vos activités ?
Le vélo.
Avec ma camionnette.
C'est la voiture quand même.
Alors malheureusement, je conduis une voiture et j'essaye de temps en temps d'utiliser le vélo, mais en semaine, c'est toujours la voiture qui l'emporte pour le gain de temps, malheureusement.
Et là, j'ai honte, c'est souvent la voiture.
Je voudrais essayer plus le vélo et c'est dans mes projets. Hein. Le vélo électrique au boulot est mis à disposition, il y a des listes d'attente, donc il faudra que je me lance.
Je travaille de chez moi, donc je n'ai pas besoin de ma voiture et en général je privilégie le vélo quand j'ai besoin de me déplacer.
Est-ce que la semaine de la mobilité influence vos déplacements ?
Ben non, pas vraiment, parce que je n'utilise pratiquement jamais ma voiture et donc je compte toujours à pied ou en transport en commun.
Alors non, parce que j'utilise déjà beaucoup les transports en commun et le vélo, donc pas plus que ça.
Alors en général oui, mais la semaine passée j'ai pas pu le faire parce que j'avais des obligations de travail. Mais sinon, cette semaine-là j'essaye d'utiliser plus mon vélo.
Elle n'influence pas mes déplacements honnêtement. Je fais de la voiture, du vélo et de la marche à pied.
Notre classe vous invite aujourd'hui à découvrir Isabelle Steenbrucken, une autrice belge. Isabelle est née à Bruxelles en 1975. Après une maîtrise de la traduction à l'Institut libre Marie Apps, elle a vécu quelques années en Espagne pour revenir ensuite à Bruxelles où elle a travaillé dans la Commission européenne pendant 10 ans. Elle a ensuite fondé une coopérative de commerce équitable, la Pachamama. Depuis 2015, elle mène 3 activités professionnelles en parallèle, la Pachamama, la traduction et l'écriture.
Elle a publié une nouvelle, Judith, aux éditions Lamirois, et un roman Être son fils aux éditions Pourpenser. Nous la recevons aujourd'hui pour nous parler de son nouveau roman La Maison des Biscuits, une saga familiale qui traverse les grands événements de la Belgique au XXe siècle. Bonjour Isabelle, merci de nous accorder un peu de ton temps. La Maison des Biscuits est un roman de 390 pages destiné a priori à plus âgés que nous. Mais Sandrine, notre institutrice, nous en a lu plusieurs passages et nous avons tout de suite accroché.
Cette saga familiale se déroule principalement à Bruxelles. Elle est totalement fictive ou s'inspire-t-elle de sa propre histoire ?
Alors, elle s'inspire effectivement un peu de ma propre histoire parce que la Maison des Biscuits, elle existe vraiment. Donc la maison existe vraiment et c'était vraiment la maison de mes grands-parents. Et j'aimais beaucoup y aller quand j'étais petite. Et donc j'avais envie d'écrire une histoire qui se déroule dans cette maison-là.
L'histoire couvre la vie de Malu. Pourquoi l'avoir choisie comme fil conducteur ? Peux-tu nous parler un peu d'elle ?
Alors je l'ai choisie comme fil conducteur parce que je trouvais que c'était important d'avoir un personnage attachant tout le long du livre. Donc un personnage qui traverse toute l'histoire pour qu'on puisse s'identifier à elle. J'avais envie de la faire passer par différentes étapes de l'histoire de Belgique pour pouvoir parler justement de l'histoire de Belgique. Donc elle traverse les deux guerres, elle va à l'Expo 58 en 1958 justement. Il y a plein d'événements comme ça qui se sont déroulés à Bruxelles. Et pour que l'histoire soit plus chouette à lire, c'est important que ce soit la même famille et les mêmes personnages qui traversent tout ça.
Pour nos auditeurs, peux-tu nous décrire un peu cette fameuse maison des biscuits et nous dire pourquoi elle s'appelle ainsi ?
Alors elle s'appelle comme ça parce que dans l'histoire, Malu est prof de piano quand elle est jeune et elle a envie d'offrir ses biscuits préférés à chaque enfant qui a bien travaillé. Et donc petit à petit pour elle, offrir des biscuits ça va devenir sa façon de créer du lien, ça va être une preuve d'attachement, une preuve d'amour qui va rester tout au long de l'histoire. Et comme elle habite cette maison, bah, ça devient la maison des biscuits.
Le livre met en avant plusieurs sujets de société comme l'intégration des personnes handicapées, l'accès des femmes à l'éducation et au monde du travail. La résistance pendant les deux guerres mondiales, Parmi d'autres sujets, lequel de ces sujets te tient le plus à cœur et pourquoi ?
C'est une super chouette question. Jusqu'ici, il n'y a aucun journaliste qui a pensé à me la poser. Tous ces sujets-là me tiennent à cœur, mais je pense que s'il fallait en choisir un parmi tout ça, je prendrais la résistance. Parce que je trouve qu'on est dans une époque très dangereuse, où il y a des chefs d'État qui ont l'air de devenir complètement fous, où l'extrême droite revient au pouvoir, où on est de plus en plus décomplexé par rapport au racisme, par rapport à des libertés fondamentales. Et je pense que c'est vraiment très très important de se souvenir que il y a 80 ans, on sait où ça nous a mené, et il faut vraiment faire attention à ce que ça n'arrive plus.
Ton livre touche finalement à l'universel et peut intéresser tout le monde. Mais à partir de quel âge en conseilles-tu la lecture ?
En fait, j'ai envie de vous poser la question à vous. Parce que vous avez lu des parties. Je pense que, vu vos questions, vous avez tous très bien compris le livre. Et à mon avis, vous avez 10-11 ans. Donc, moi, je me sens très mal placée pour dire à partir de quel âge on peut le lire. Mais je dirais que c'est à partir de votre âge.
Parmi les auditeurs qui t'écoutent, il y a forcément beaucoup de Bruxellois. Où se situe cette fameuse maison des biscuits ?
Donc dans la vraie vie et dans le roman, elle se situe à Ixelles, dans le quartier Bascule. Il y a forcément beaucoup de Bruxellois, effectivement. Et je pense que tout ce qui se passe dans le livre fait appel à leurs souvenirs, parce que il y a certains lecteurs qui reviennent vers moi souvent en me disant « Ah, moi j'ai grandi dans le même quartier » ou « Moi aussi j'étais à cette école-là » et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des personnes qui ont l'âge de vos grands-parents maintenant, qui se souviennent de l'Expo 58, qui avait 7, 8, 9, 10 ans à l'Expo 58. Et pour eux, c'était quelque chose de complètement magique. C'était des événements formidables et ils s'en souviennent encore maintenant très très bien.
Ton livre titille la mémoire collective des Bruxellois, un peu comme la chanson « Bruxelles » de Jacques Brel. Lors de tes séances de dédicace, sens-tu la proximité de tes lecteurs avec certains lieux ou événements qui se servent de théâtre ou à ton histoire ? T'en parles-t-ils ?
Oui, effectivement, ils m'en parlent beaucoup. C'est un peu ce que je disais à Caroline tout à l'heure. Il y a beaucoup de lecteurs qui reviennent vers moi, soit en me racontant ce que eux ont vécu, soit en me disant que c'est un peu l'histoire de leurs grands-parents, que leurs grands-parents et leurs parents ont vécu aussi tous ces événements-là. Et c'est très très chouette de voir que ça rappelle des bons souvenirs aux gens.
Sandrine, notre enseignante, nous a lu le chapitre dans lequel Malu rentre à l'école primaire et se fait battre par son enseignante parce qu'elle est gauchère. Quel regard portes-tu sur l'évolution du système éducatif en Belgique depuis un siècle ?
Je trouve que, heureusement, ça a évolué dans le bon sens, parce que moi aussi je suis gauchère. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, il y a personne qui m'a frappé les mains pour me dire que c'était la main du diable et que je devais écrire avec la main droite. Et en fait, ma grand-mère était vraiment gauchère et c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc c'est une histoire vraie que j'ai mise dans le livre. Elle a réussi à comprendre que même si elle, on l'avait forcée, c'était pas du tout un défaut et que, enfin, elle s'est jamais inquiétée de voir que moi j'étais gauchère aussi. Les mentalités ont vraiment évolué dans le bon sens.
Tes enfants ont fait leur scolarité maternelle et primaire dans notre école. Était-ce une évidence pour toi de les mettre en pédagogie active ?
Plus qu'une évidence, je dirais que c'était une chance, parce que on était sur liste d'attente et on a eu la grande chance d'avoir une place pour Diego, donc pour mon grand, et donc sa petite sœur a pu venir aussi. Et ils ont tellement adoré l'école que quand ils sont arrivés en secondaire, ils ont dit « Ah, mais en fait, l'école, c'est pas si chouette !» Pour eux, c'était vraiment super chouette d'être dans cette école-ci. Ils en gardent des très très bons souvenirs. Et puis finalement, ils gardent des bons souvenirs de leur secondaire aussi. Mais je pense que l'école Ahmed les a vraiment beaucoup marqués dans le sens positif.
Comment en es-tu venue à l'écriture ?
En fait, j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai appris à écrire, j'ai toujours écrit. J'avais des cahiers dans lesquels j'écrivais des petites histoires et tout, et je me souviens pas vraiment comment j'en suis venue à l'écriture, mais j'ai toujours adoré écrire.
Comment se passe le processus d'écriture ?
Alors, c'est une super question parce que je pense que les grands écrivains, ils ont tous des rituels, des disciplines très très précises et tout. Moi, absolument pas. Donc, ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai une idée qui vient, bah, j'écris à la main dans un cahier. J'écris très vite le premier jet, je vais dire, pour pouvoir me souvenir après des idées. Et puis après seulement, quand je prends mon ordinateur, j'essaye de relire ce que j'ai écrit parce que c'est très mal écrit. Et là, j'écris un texte un peu plus cohérent, un peu plus joli. Et quand je termine l'histoire, là, je relis bien tout plusieurs fois avant de l'envoyer à l'éditeur pour que ce soit quand même acceptable pour lui.
Est-ce facile d'écrire un roman ?
Je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Pour moi, c'est pas très compliqué, mais par exemple, si tu me demandes d'écrire une chanson, j'en suis absolument incapable. Alors qu'il y a certaines personnes qui écrivent des chansons magnifiques et qui font des musiques magnifiques et pour qui ce serait très difficile d'écrire un roman, tu vois. Je pense que chacun a ses qualités, ses facilités, et pour moi, bah, c'est ça.
As-tu des conseils pour débuter dans l'écriture?
Le seul conseil que je peux vous donner, c'est prenez un stylo et écrivez. Même si vous n'avez pas encore d'idées, vous verrez que les idées viennent toutes seules quand vous commencez à écrire.
Ce livre-ci rencontre tout doucement son petit succès en librairie. Est-ce difficile de faire sa place dans le monde de l'édition ?
C'est une très bonne question. Je pense pas que ce soit facile, mais moi j'ai pas trouvé ça très difficile non plus. Je pense que... Alors ça va paraître bizarre ce que je vais te dire, mais je pense qu'une bonne façon d'y arriver, c'est que ça te soit égal d'y arriver ou pas. Si t'as du succès, c'est bien. Si t'en as pas, ben c'est pas grave parce que t'as pris du plaisir à l'écrire. Il est fait, t'es fier de toi. Et je pense que c'est en arrivant à se détacher de l'envie du succès qu'on est vraiment content que ça marche parce que c'est un plus. On est déjà content d'avoir écrit le livre. Puis si en plus il y a des gens qui lisent, ben c'est génial.
As-tu déjà un autre projet d'écriture ?
Oui, j'ai déjà plusieurs autres projets d'écriture. Parce qu'en fait, la Maison des Biscuits, j'ai commencé à l'écrire pendant le confinement, en 2020. Donc il y a 5 ans, ça m'a pris 1 an et demi. Et puis après, le temps qu'il trouve une maison d'édition, qu'il soit publié, etc., ben ça met à peu près 4 ans. Et donc depuis, ben, j'ai déjà écrit d'autres choses, oui.
Merci Isabelle, nous souhaitons une très belle carrière littéraire.
Merci à toi.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine gazette. Vous pouvez réécouter l'ensemble de nos gazettes sur le www.radioalma.eu/gazette.